On se lance aujourd'hui dans un sujet qui, à première vue, a l'air vraiment simple, mais qui est en fait un véritable champ de mine pour les petites entreprises. Je parle de l'emballage et de l'expédition. On passe des mois, des années à perfectionner un produit, à bâtir une marque, et tout peut vraiment s'effondrer dans les derniers kilomètres.
C'est exactement ça, c'est le dernier contact, la dernière impression. Et les chiffres qu'on a regardés pour préparer ça, ils sont assez brutaux. On apprend que près de 20% de tous les retours en commerce électronique, c'est à cause de produits endommagés pendant le transport.
20%.
Un produit sur cinq.
Wow.
C'est un chiffre qui devrait donner des sueurs froides à n'importe quel entrepreneur, là.
Un sur cinq, c'est fou. On pense tout de suite au coût de remplacement du produit, mais j'imagine que l'impact est beaucoup, beaucoup plus large.
Absolument. C'est un effet domino. Le produit brisé, dans le fond, c'est juste le début. Après, tu as les coûts de retour, le temps perdu par le service à la clientèle. Et le pire, c'est la mauvaise critique en ligne qui va suivre.
Ah oui, la fameuse critique.
Exact. Ça peut faire fuir des dizaines d'autres clients et par-dessus tout, ça brise la confiance. Un mauvais emballage, c'est comme une poignée de main molle. Ça donne pas envie de revenir.
D'accord, le portrait est clair. C'est un enjeu stratégique. Alors, par où on commence? Si je suis un entrepreneur, j'ai mon produit sur la table, prêt à partir, ma première question, c'est dans quoi je mets ça? J'imagine que ça part avec la boîte.
C'est le point de départ fondamental. La norme, c'est la boîte en carton ondulé. Mais là où beaucoup font d'une première erreur, c'est de penser qu'une boîte, c'est une boîte.
C'est pas le quoi?
Non, il y a une distinction cruciale entre la simple paroi et la double paroi. Simple paroi, c'est parfait pour des trucs légers, des vêtements, des livres. Mais dès que c'est lourd ou fragile,
Comme de la céramique, mettons.
exactement. Là, la double paroi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça offre une bien meilleure protection contre les chocs et la perforation.
Attends une seconde. Mon réflexe serait de me dire, ah, je vais prendre une boîte un peu plus grande juste pour être sûr et je vais la remplir de matériel de protection. Ça semble plus sécuritaire, non?
C'est l'erreur classique. Et je comprends, c'est totalement contre-intuitif. En réalité, la boîte idéale est à peine plus grande que l'objet.
Ah ouais?
Oui, juste assez d'espace pour, disons, 5 cm de matériel de rembourrage de chaque côté. Si l'objet a trop de place, il va bouger, il va prendre de l'élan à chaque secousse et l'impact va être beaucoup plus fort. Le but, c'est de l'immobiliser complètement.
Ah, je vois. L'ennemi, c'est le mouvement. Et c'est là qu'entre en jeu tout ce qu'on met dans la boîte, le fameux calage. On connaît tous le papier bulle, mais il y a plein d'options. Est-ce que ça fait une vraie différence?
Une énorme différence. Le choix du calage, c'est stratégique. Ça dépend de l'objet. Le papier bulle, c'est le champion pour les objets fragiles, comme la verrerie. Il offre une protection de contact direct. Les coussins d'air, eux, sont super légers, parfaits pour combler de grands vides à faible coût.
Mais j'imagine qu'ils peuvent percer facilement.
Exactement. Si l'objet a des coins pointus, c'est moins efficace.
Et les particules de calage, les packing peanuts. J'ai l'impression que tout le monde déteste recevoir ça. Ça colle partout.
Tu mets le doigt sur un point crucial. Techniquement, oui, c'est efficace pour des formes irrégulières, mais l'expérience client est souvent assez négative. Et c'est pas très écolo.
C'est ça.
De plus en plus, on voit des options plus durables. Du papier kraft froissé, du carton déchiqueté, même des particules à base d'amidon de maïs qui se dissolvent dans l'eau. Le choix du calage envoie un message.
C'est intéressant, ça. Fait que le matériel de remplissage, c'est pas juste fonctionnel. Ça fait partie du branding. Et pour les produits vraiment haut de gamme, l'électronique, par exemple.
Là, on monte d'un cran. On parle d'insertion en mousse sur mesure. C'est la protection ultime. La mousse est découpée pour épouser parfaitement la forme du produit.
Zéro mouvement possible.
Zéro. C'est ce que les grandes marques utilisent. Ça communique tout de suite une impression de qualité, de soin.
Bien sûr, tout le monde n'expédie pas des objets fragiles. Pour la mode, par exemple, on voit surtout des sacs en plastique souple.
Exact. Les enveloppes en polyéthylène ou polymailers. Pour des vêtements, des tissus, c'est une solution fantastique. C'est léger, donc ça réduit les frais de transport.
Imperméable aussi, j'imagine.
Oui, ça protège de la pluie et c'est très résistant à la déchirure. Simple, économique et efficace pour la bonne catégorie de produits. Puis il y a des emballages plus spécialisés. Je pense à ceux à témoins d'intégrité.
C'est-à-dire?
Ceux qui montrent une preuve visible s'ils ont été ouverts. Pour des cosmétiques de luxe ou des documents importants, ça rassure le client. Ça lui dit que le produit est arrivé intact.
D'accord. L'arsenal est beaucoup plus vaste que je pensais. Mais avoir les bons outils, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'en est une autre. Mettons-nous en situation. J'ai une boutique en ligne et je dois expédier l'objet le plus redoutable, un miroir encadré.
Ah, le test ultime!
C'est grand, plat, lourd et super fragile. Comment j'évite la catastrophe?
Pour ça, il y a une technique qui a fait ses preuves, la méthode de la double boîte.
La double boîte?
C'est simple. D'abord, tu protèges le miroir lui-même, papier bulle, protecteur de coin en carton. Tu le places dans une première boîte bien ajustée.
OK, jusqu'ici, ça va.
Ensuite, tu prends cette première boîte et tu la places à l'intérieur d'une deuxième boîte, plus grande d'environ 10 à 15 cm de chaque côté. Et là, tu combles l'espace entre les deux boîtes avec du matériel de calage.
Ah! Tu crées une zone tampon.
C'est exactement ça. Si le colis est échappé, la boîte extérieure absorbe le premier choc. L'onde de choc est amortie par le calage avant même d'atteindre la boîte intérieure.
C'est brillant. Et j'imagine qu'on ne gêne pas pour coller des autocollants fragiles partout.
Absolument. Fragiles, manipulés avec soin, des flèches pour indiquer le haut. Ça ne garantit pas un traitement royal, mais ça augmente les chances que le livreur fasse un peu plus attention.
D'accord. Cas du miroir réglé. Changeons de registre. L'électronique. Un laptop, une console de jeu. Ici, le risque, c'est pas juste que ça se brise en deux.
Non. Avec l'électronique, il y a deux ennemis invisibles. Les vibrations et l'électricité statique.
L'électricité statique?
Oui. Une petite décharge qu'on ne sentirait même pas peut griller des circuits et rendre l'appareil inutilisable. C'est sournois.
Alors, comment on combat ça?
La première ligne de défense, c'est de mettre l'appareil dans une pochette antistatique. C'est non négociable. Ensuite, on revient à l'immobilisation, idéalement avec des insertions en mousse sur mesure. On ne protège pas juste l'écran, hein? On protège le cœur de la machine.
On a couvert le très fragile et le très technique. Pour les articles plus courants, y a-t-il une erreur de base à éviter? Pensons à la mode.
Pour la mode, l'erreur est de juste lancer le vêtement dans l'enveloppe. Le secret, c'est de le plier soigneusement, peut-être dans du papier de soie, ça prévient les faux plis, mais surtout, ça transforme le déballage en une expérience un peu plus luxueuse.
Un petit détail qui change tout.
Et qui coûte presque rien.
Et pour les cosmétiques, le risque de fuite.
Double protection. 1. Un saut de sécurité sur le bouchon. 2. Placer le produit dans un petit sac imperméable scellé avant de le mettre dans la boîte. Si ça coule, le dégât est contenu.
Et bien sûr, l'étiquette, ce côté vers le haut.
Essentiel.
Parfait. Dernier cas, les livres. Rien de plus frustrant qu'un livre qui arrive avec les coins tout abîmés.
Le point faible, c'est toujours les coins. La solution est simple, des protecteurs de coins en carton ou en plastique avant de l'emballer. Ça, plus un emballage rigide et c'est réglé.
D'accord. À ce stade, notre colis est une forteresse. Le produit est en sécurité. Mais tout ce beau travail peut être ruiné si la dernière étape est bâclée, l'étiquette d'expédition. J'ai personnellement passé des heures à copier-coller les adresses et la peur de faire une faute de frappe est bien réelle.
C'est le cauchemar de tout vendeur. Une étiquette mal imprimée, un code barre flou, une erreur dans le code postal et le colis part dans les limbes. Et l'erreur humaine, c'est la cause numéro un de ces problèmes.
C'est là que la technologie peut nous sauver, j'imagine.
C'est exactement là. Des plateformes logicielles, comme ClickShip, par exemple, s'intègrent directement aux boutiques en ligne comme Shopify, WooCommerce, Wix. Le principe est simple. Au lieu de copier-coller, le système importe automatiquement les infos du client et génère l'étiquette. Plus aucune saisie manuelle.
Ça élimine donc le risque de faute de frappe. Ça doit changer la vie pour ceux qui ont des dizaines de commandes par jour.
Complètement. Ces plateformes permettent l'impression d'étiquettes en vrac. Tu peux imprimer 50 étiquettes correctes en quelques clics. Ça transforme une tâche de plusieurs heures en une opération de quelques minutes.
Et ce temps-là, on peut le remettre ailleurs.
Exactement. Dans le marketing, le développement de produits, bref, faire croître l'entreprise.
OK. Le processus est maintenant fiable et efficace. Mais mettons que, malgré tout, l'impensable arrive. Camion, un accident, un collier perdu. Il reste un dernier filet de sécurité, j'espère. L'assurance.
C'est le filet de sécurité essentiel, surtout pour les articles de grande valeur. Faut être clair, l'assurance, ça prévient pas les problèmes, mais ça gère les conséquences. Si un colis assuré est perdu ou endommagé, l'assurance permet de récupérer la valeur financière.
Donc, au lieu que la perte gruge directement les profits, c'est l'assurance qui couvre.
C'est ça. Ça permet de réagir vite, d'envoyer un remplacement au client sans hésiter. Du point de vue du client, une erreur est arrivée, mais l'entreprise l'a réglée vite et bien. Ça peut même renforcer la loyauté.
Si on fait le bilan, on dirait que l'emballage parfait repose sur trois piliers. D'abord, le choix intelligent des matériaux. Ensuite, des stratégies adaptées à chaque produit. Et enfin, une finition impeccable avec l'étiquetage automatisé et l'assurance.
C'est une excellente synthèse. Et si je devais ajouter une chose pour conclure, c'est que l'emballage, ce n'est jamais une dépense. C'est un investissement.
Un investissement?
Oui, un investissement dans la satisfaction du client, dans la réputation de la marque et au final, dans la rentabilité. À l'ère du commerce en ligne, le colis qui arrive chez le client, c'est un des points de contact physiques les plus importants. C'est la poignée de main finale avec l'acheteur. Il faut qu'elle soit ferme et confiante.
Une poignée de main finale. J'aime beaucoup cette image. Ça m'amène à une dernière pensée. On a beaucoup parlé de protection, de sécurité, mais si on pousse plus loin, comment cette poignée de main peut-elle être non seulement solide, mais aussi mémorable? Voici une piste de réflexion. Au-delà de la sécurité, comment l'expérience même du déballage peut-elle devenir une extension du marketing? Comment le choix d'un papier de soie de couleur, d'un ruban personnalisé ou d'une boîte imprimée peut-il transformer une simple transaction en un moment de plaisir, un moment qui donne envie de partager son expérience sur les réseaux sociaux?